acqua che le domini le sono le femme, le chanel, le travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir. Seulement, en soumissant, pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatale, pas du tout, on non la considérons pas fatale. Et en petite métaphore, on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur la police. Je voulais bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrons. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor, chaque semaine sur les collégues de Montpellier et Canal Sud à Toulouse qui reprennent l'émission qui est faite ce soir sur Reims au niveau de Radio Primitive. Donc, les Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
Alors bonsoir, ce soir on va vous parler de la situation du loup en France et on a un invité à l'antenne, Farid Benamou. Bonsoir Farid.
Bonsoir.
Alors pour te présenter de nouveau, bien que tu es déjà, on a déjà dialogué plusieurs fois sur cette antenne ensemble. Donc tu as fait une thèse de doctorat, un doctorat en géographie concernant les grands prédateurs, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. J'ai étudié les conflits autour de la protection de l'ours et du loup en France, exactement, et notamment parce que ça révèle un certain nombre de problématiques et d'évolutions et de conflits en lien avec notre rapport au territoire et à l'environnement.
Et avec les institutions. Je crois que le sous-titre de ta thèse, c'était géopolitique du territoire, quelque chose
ouais,
comme
c'est
ça.
Oui, c'est ça. C'est une géopolitique locale de l'environnement appliquée à la gestion des grands prédateurs. Hein. J'avais même un titre un petit peu, on va dire, emprunt de jeu de mots. J'avais dit « Crier au loup pour avoir la peau de l'ours
oui. »
et une géopolitique locale de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui connaissent, je suis assez inspiré du géographe et géopoliticien Yves Lacoste qui a étudié, enfin, a remis au goût du jour la géopolitique qui étudie les tensions et les rivalités entre des groupes humains au sujet des territoires et moi je l'ai appliqué à l'environnement et par rapport aux grands prédateurs ça fonctionnait parfaitement bien puisque bien évidemment les questions environnementales, vous êtes bien placé pour le savoir, et surtout toi Jean-Noël, sont éminemment conflictuelles, et donc cette question de l'ours et du loup l'est particulièrement. Il suffit de voir à quel point, comme tu le soulignais, ça interpelle à toutes les échelles, notamment à toutes les échelles du pouvoir et de l'administration, mais aussi à toutes les échelles des médias.
Oui, alors on va en parler des médias justement parce que il y a un article on va entrer dans le détail par rapport à bon on a une situation aujourd'hui qui est particulièrement exacerbée autant par rapport au loup mais également par rapport à l'ours hein, puisque aujourd'hui pas plus tard qu'il y a quelques mois il y a eu des battues organisées dans les Pyrénées pour chasser un ours en vallée de Luz Saint-Sauveur. J'ai découvert ça hier soir, j'étais un peu atterré quoi. Mais également, on a une situation où les syndicats, alors cette fois, ils sont unanimes, les syndicats agricoles, et je vais même dire le syndicat paysan, la Confédération paysanne, sont aujourd'hui unanimes pour crier au loup et pour crier à son élimination. Oui. Alors déjà, est-ce que on va peut-être rappeler, si tu veux bien, l'origine du loup en France, parce que souvent déjà il y a une confusion au sein du public sur son origine sur le territoire français.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu fais allusion à la confusion entre retour et réintroduction.
Tout à fait.
C'est-à-dire que pour l'ours dans les Pyrénées où il y avait déjà une population d'ours, on a remis des ours en provenance de Slovénie, donc on parle là de réintroduction, mais on devrait même parler de renforcement, alors que le retour du loup s'est fait de manière naturelle en provenance d'Italie, puisqu'on a affaire à un animal social qui vit en communauté qu'on appelle meute sur 150 à 200-300 km², et quand ce groupe qui constitue en gros une famille, pour faire simple, avec un mâle dominant, une femelle dominante et puis la descendance, quand ce groupe est trop exigu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de nourriture et qu'il y a des tensions exacerbées, eh bien des jeunes partent, mâles et femelles, et c'est pour cela qu'on a une colonisation qui est particulièrement dynamique, hein, qui peut aller d'ailleurs à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres du lieu de la meute. Et donc, dans les années 90, au début des années 90, on a des loups qui ont commencé à opérer leur retour par les Alpes du Sud, et notamment le Mercantour, puis ça s'est étendu aux Alpes, à toute la chaîne alpine, assez rapidement également, à la fin des années 90, il y en avait également dans les Pyrénées orientales, hein, ce n'était pas des loups qui venaient d'Espagne, mais c'était des loups qui venaient des Alpes franco-italiennes, et puis maintenant, mes chers Rémois, eh bien le loup est à vos portes, hein, puisque il est maintenant, il a bien colonisé l'Est, alors peut-être pas avec des grosses densités, mais il est présent dans les Vosges, il est présent en Haute-Marne, et puis l'an dernier, à je crois une vingtaine de kilomètres de Chalon-en-Champagne, il y a un loup qui a été abattu.
Alors, voilà. C'est un loup de 4 ans, un mâle de 4 ans,
voilà.
Qui venait effectivement du massif vosgien.
Voilà.
Et semble-t-il, là, il y a de nouveaux individus qui sont présents du côté de la Haute-Saône.
Voilà. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une population, et c'est pour ça que c'est très différent de l'ours, hein, on est vraiment dans une population qui est très dynamique. Elle est vraiment très dynamique. Et c'est aussi, en partie, un des facteurs qui exacerbe les tensions, puisque malgré le braconnage, parce que le braconnage est tout à fait réel, hein, et il élimine des loups, malgré les morts, on va dire, naturelles et accidentelles, bon, malgré les quelques tirs qui étaient, faut le dire honnêtement, assez peu efficaces jusqu'à l'année dernière, même si cette année ils ont vraiment, et on en reparlera, gagné en efficacité, puisque là, rien que cette année, on a réussi à tuer quasiment autant officiellement, je parle des tirs officiels, autant de loups quasiment que ce qui avait déjà été autorisé par le passé sur plusieurs années.
Ouais. Oui, je crois que cette année, les autorisations, c'est 27, si je ne me trompe pas.
Alors, c'était 24 extensibles, et cette année, extensible à 36.
Ouais, voilà.
Voilà. Et on en est déjà, je crois, à une quinzaine.
Une quinzaine de loups morts,
voilà.
Tués ou braconnés, ça c'est les chiffres de la buvette des alpages.
Ouais.
3 empoisonnés, 7 prélèvements, disent, et 1 tir de défense.
Je crois même qu'au niveau des prélèvements, c'est même plus que ça. Hein. Je parle des prélèvements officiels, je crois qu'on est arrivé, parce que rien que là, le week-end de pas celui-là, mais celui d'avant, ils en ont encore tué un dans le Var, et officiellement, parce que en fait, ils ont gagné en efficacité pour la simple et bonne raison, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que les associations risquent de gagner leurs attaques sur le plan juridique, c'est que en fait ils ont autorisé maintenant les abattages de loups lors des battues organisées par les chasseurs, puisque jusque là en fait il n'y avait que des agents assermentés de l'ONCFS, c'est-à-dire l'Office de la chasse et de la faune sauvage, et les agents de louveterie mandatés par le préfet, qui étaient autorisés, avec éventuellement des bergers ou des éleveurs. Mais ces derniers officiellement ont toujours été, malgré ce qu'ils disent, assez réticents. Cette année, donc ça va faire un an maintenant, il y a une autorisation d'abattage de loups dans le cadre des battues de chasse. Et donc forcément, d'ailleurs c'est des choses qui ont été largement demandées, et le milieu de la chasse est particulièrement satisfait, hein, de ces mesures-là, même si paradoxalement c'est le monde de l'élevage qui se plaint le plus, en fait c'est le monde de la chasse qui est le principal, on va dire...
bénéficiaire, entre guillemets.
Voilà, entre guillemets, parce que pour eux, c'est quand même éliminer, tuer un loup pour différentes raisons, c'est quand même un objectif qui est tout à fait intéressant.
Oui. Alors, bon, autour de moi, il y a Denis, hein, que tu connais également, il y a Camille à la technique, il y a Jean-Michel, donc qui peut-être poseront des questions, parce qu'ils ont lu également le document qui va être le cœur de notre discussion, c'est pourquoi la Confédération paysanne est-elle dans ce coup, est-elle devenue anti-loup depuis quelques années? Alors, est-ce que peut-être qu'il faudrait passer par une petite analyse sur la situation de l'élevage en France, de l'élevage ovin en particulier, parce que lorsqu'il s'agit d'élevage bovin, le problème ne se pose pas des attaques, hein, ou très très peu. Mais les problèmes viennent de la sorte, puisque moi je considérais que les utilisateurs de la montagne dans l'élevage extensif considèrent la montagne comme leur seul étant les seuls propriétaires, quoi. C'est-à-dire ils considèrent pas d'autres usagers, d'autres personnes qui pratiquent cette montagne, autant au niveau des espèces naturelles que des pratiques agricoles ou d'élevage, quoi.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que c'est tout à fait intéressant en géographie, parce que là on est au cœur d'une question de multi-usage et de partage de territoire, et de partage de territoire qui ne se fait pas forcément, je veux dire, bien. Et là, d'ailleurs, il n'y a pas uniquement les éleveurs, hein, qui sont à, comment dire, à mettre en cause, puisque d'ailleurs, entre éleveurs, agriculteurs et chasseurs, il y a aussi de grosses tensions, hein, au niveau du partage du territoire. Les uns pouvant être des éleveurs dans certains endroits pouvant être amenés à clôturer les montagnes, et les chasseurs pouvant laisser divaguer leurs chiens qui peuvent représenter une véritable menace. Et puis, en fait, là aussi on a la confrontation d'autres usages et d'autres fonctions, on va dire, de la montagne, c'est-à-dire d'une part une fonction touristique, ce qui d'ailleurs peut aussi amener la question des chiens de protection, hein, qui peuvent être très efficaces, mais qui peuvent en effet justement poser un certain nombre de questions et de problèmes aux touristes.
Parfois.
Parfois,
je dirais, ouais, c'est très marginal par rapport
à... Oui, parfois, mais justement, ça peut être marginal. Alors après, ça dépend, parce que si le chien de protection est mal placé, si c'est fait, on va dire, sans respecter un certain nombre de règles et de procédures à l'éducation de ces chiens, en effet, ça peut poser problème. Et puis, comme ces chiens sont associés à la protection des grands prédateurs et qu'ils sont eux-mêmes massifs et impressionnants, et forcément, les anti-prédateurs vont se précipiter pour pointer du doigt ces chiens qui nuisent à l'activité et de l'élevage et du tourisme. Alors, et enfin, en fait, je voulais parler aussi de l'usage entre guillemets de protection de ces espaces-là, puisque bien souvent, vu qu'on a énormément de mal à protéger la nature en France, ces quelques espaces-là qui en effet étaient relativement peu densément peuplés ont été des espaces qui ont pu recueillir des espaces protégés, des parcs nationaux, des réserves, souvent d'ailleurs dans des zones où justement on jugeait que de gros enjeux n'étaient pas en question. Encore que, puisque on constate que dans beaucoup de parcs nationaux à l'heure actuelle, on a de l'élevage, y compris dans des zones dites de protection forte, c'est-à-dire les zones ex-centrales qu'on appelle maintenant...
Les zones de cœur.
Voilà, les zones cœur. Oui, voilà. Alors, je veux aussi faire une petite précision, et d'ailleurs, je vous remercie là de me donner la parole, parce que on va parler de la Confédération paysanne, et je suis persuadé que chez de nombreux auditeurs de la radio, il y a des sympathisants, voire des membres, et qui aimeraient justement avoir des éléments et mieux comprendre. On pourra également parler là-dessus. Car il est avéré que ce syndicat qui défend les paysans, qui défend souvent les causes écologistes, eh bien depuis un certain nombre d'années, hein, mais ça c'est pas récent, en fait, s'est mis à appliquer des positions qui sont dignes de celles de la FNSEA, c'est-à-dire le syndicat majoritaire, alors pas forcément avec les mêmes justifications, avec d'ailleurs parfois des arguments qui sont tout à fait recevables, qui peuvent être jugés recevables, mais qui, venant de ce syndicat, peuvent être surprenants.
Ouais, mais moi je voudrais dire, en fait, chez les uns comme chez les autres, il y a des ultras, ce qu'on appelle des ultras pastoraux, qui sont des gens vraiment craignos pour moi, qui en fait sont dans une dynamique où, comme je disais tout à l'heure, ils considèrent que la montagne leur appartient et que, alors, excite le milieu naturel en termes d'écosystème d'un point de vue botanique, mais aussi en termes d'écosystème du point de vue de la vie faune. Je parlerai par exemple de la situation des grands tétras ou des petits tétras qui ont disparu de certaines zones de montagne. Il y a deux semaines, j'étais dans les Alpes, dans les vallées de Servières, pas loin du Queyras. Il y a des populations de tétranidés, de coqs de bruyère, qui ont disparu à cause de cette fréquentation intensive des troupeaux, qui, lors des périodes de nidification, vont dégrader les milieux naturels. Quand je dis dégrader, c'est parce qu'en fait, on se retrouve non plus avec des petits troupeaux de quelques centaines de bêtes au maximum, mais là, on en est aujourd'hui à des troupeaux qui montent de Provence de 4000 bêtes, qui sont répartis entre 2000 par-ci et 2000 par-là.
Ouais.
Ça fait considérable. Et avec une situation où on n'a plus de personnes qui vivent en montagne.
Voilà.
En général, ces grosses structures payent un ou deux bergers ou une ou deux bergères. Et puis voilà. Et alors, avec la sacro-sainte croyance de dire qu'il est hors de question de collaborer avec les instances, que ce soit des parcs ou que ce soit des zones qui ne sont pas nécessairement dans les parcs nationaux, mais de refuser par exemple d'utiliser les chiens de protection parce que c'est inopérant ou c'est inefficace, ou alors que parfois, je dis bien parfois, hein, parce que quand on prend, il y a des centaines de chiens dans les Alpes, il y a à peu près 200 à 300 chiens patous qui protègent les troupeaux, on a quelques incidents parfois, effectivement. Bon.
Alors, ce qu'il faut également dire, même si dans les grandes lignes il y a énormément d'éléments justes qui viennent d'être dits, l'élevage c'est aussi une diversité. Hein. On peut parler aussi de deux pastoralismes au pluriel, parce que en effet il y a les cas que tu viens de citer, mais il y a aussi dans ces gros troupeaux des gens qui se regroupent, et puis il y a suivant les endroits parfois des troupeaux, on va dire, un peu moins grand, 500, 600, voire parfois un petit peu moins. Et c'est d'ailleurs dans ces troupeaux un peu moindres, encore que, qu'on va trouver des adhérents de la Confédération paysanne. Et on a aussi beaucoup, notamment dans les Alpes du Sud, des modes d'élevage qui amènent les troupeaux à rester toute l'année à l'extérieur, y compris dans des zones
sensibles,
y compris l'hiver, ou les moments où les loups sont vraiment en grande recherche d'alimentation. Donc ça c'est aussi un des éléments à prendre en compte. Alors j'aimerais aussi revenir sur ces questions justement de dégradation liées à l'élevage. Alors on pourra revenir sur cet élément. Déjà, il faut bien distinguer l'éleveur, qui est le propriétaire du troupeau, et le berger, qui et plutôt le salarié, hein, saisonnier souvent. Jean-Noël, tu pourras d'ailleurs parler de ton expérience à ce titre-là. Et même s'il peut arriver dans certains endroits où les éleveurs, n'ayant pas assez d'argent, parce que c'est le nerf de la guerre, eh bien, sont eux-mêmes amenés parfois à aller surveiller leurs troupeaux. Alors j'aimerais revenir sur un des aspects, c'est-à-dire que très souvent on montre l'élevage et le pastoralisme de montagne comme le garant de la biodiversité et la protection de l'environnement. C'est d'ailleurs un des argumentaires qu'on retrouve fréquemment, c'est-à-dire que l'élevage en montagne contribue à l'ouverture des paysages, contribue à entretenir le milieu. C'est une présence qui est pluriséculaire. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il y a des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des réserves naturelles qui soutiennent, voire qui encouragent l'élevage. Alors, tout à l'heure, tu as apporté des éléments montrant que dans certaines zones, à cause de l'augmentation de la densité de troupeaux, les effets écologiques peuvent être en effet très graves, avec non seulement du surpâturage dans certains endroits, mais aussi du sous-pâturage à d'autres, puisqu'en effet, ça c'est aussi un élément que tu as évoqué, c'est-à-dire que comme le gardiennage a diminué, les troupeaux, les bêtes sont moins guidées, entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire forcément que les gens travaillent mal, mais disons que dans le cadre d'une présence de prédateurs, et ben ça renforce ça renforce le problème. Quant à l'élément de dire aussi que l'élevage entretient la biodiversité, pour en revenir sur les problèmes de la protection de la nature, il y a le cas des bouquetins du Bargy, là, en Haute-Savoie, qui est un véritable scandale.
Oui.
C'est-à-dire que des bouquetins ont été identifiés avec la... je crois que c'était la brucellose, hein, la brucellose ovine, qui est en fait une maladie qui fait des allers-retours entre la faune sauvage et la faune domestique. Et sous pression des syndicats agricoles, alors là c'est plutôt la FNSEA, le préfet a ordonné d'éradiquer la population de plusieurs centaines de bouquetins, qui est une espèce vraiment protégée, qu'on n'a pas le droit de tuer. D'autant que les vétérinaires, les scientifiques avaient dit que, en effet, on peut éliminer les individus qui sont malades, mais c'est une stupidité d'éliminer toute la population, puisque ça n'éradiquera pas du tout la maladie, et en plus ça va à l'encontre de la protection de cette espèce.
Alors ce que tu voulais dire à ce propos, c'est que le loup, dans une pareille situation, est censé avoir un effet régulateur, puisque en priorité il s'attaque à des animaux malades.
Le loup peut s'attaquer en effet aux animaux malades, hein. Bon, les Indiens le surnomment le médecin de la nature, hein. Mais il peut arriver cependant, suivant les populations, que le loup étant un animal opportuniste, qui ne s'attaque pas forcément aux animaux les plus malades. Alors bien sûr, dans une population où il y a des animaux qui sont handicapés ou malades, comme c'était le cas dans son retour quand il a été confronté aux populations de mouflons. Le mouflon méditerranéen, qui est une espèce qui avait été introduite, qui est d'ailleurs issu de croisements entre des mouflons de Corse, des moutons sauvages, etc. Et il est vrai que là, le loup a fait un carnage, parce que c'était l'animal qui était le moins adapté. Mais suivant le contexte, en fait, le loup est un animal opportuniste, et il va prendre les occasions qui se présentent à lui, et s'il y a énormément d'individus, même en bonne santé, mais que ils sont très très nombreux par rapport aux animaux malades, proportionnellement, il va aussi s'attaquer aux animaux en bonne santé. Mais il est vrai qu'il arrive qu'en tant que prédateur, il impacte davantage les animaux plus faibles.
Jean-Michel a une question.
Oui, Farid, bonsoir. Je voulais te demander de revenir sur la position de la Confédération paysanne, qui pour moi est très surprenante, puisque, pour faire une confidence, on avait pensé ce soir diffuser une émission, une interview du responsable du secteur loup de la Confédération paysanne, mais après écoute, c'était absolument pas possible, parce qu'on avait tous les éléments qui étaient déjà dans le discours de la FNSEA, à savoir position de victimologie, aucune analyse du pastoralisme, à la fois dans l'écosystème, mais aussi, comme tu l'as dit, dans une donnée sociale. Et moi, les gens de la Confédération paysanne que je connais, je connais pas tout le monde, mais ceux que je connaissais, en tous les cas, sont des gens que j'avais pu rencontrer dans des luttes, que ce soit à Sivens, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, ou encore là, dans la forêt des Chambarans à Roibon. Et c'est vraiment très très surprenant de voir à la fois la faiblesse de l'analyse, mais aussi la mise en concurrence de la Confédération paysanne avec d'autres syndicats auxquels les positions sont plus compréhensible. Est-ce que la position de la Confédération paysanne a toujours été celle-ci? Quelle est l'origine de la création de ce secteur loup? Et comment, toi, tu analyses ce que tu appelles une radicalisation sur ces positions?
Alors, en fait, c'est la radicalisation, c'est le journaliste qui a fait l'enquête de mon papier, donc dans Politis, qui est un excellent canard et que je recommande, bien sûr, à vos auditeurs, qui a mis ce terme de radicalisation. Puisque, en fait, cette radicalité, elle est quasiment contemporaine au retour du loup, sauf qu'elle n'a pas toujours été autant médiatisée. C'était l'objet d'ailleurs de mon papier, de faire un petit mise au point. Alors bien sûr, j'avais 3700 signes. J'ai déjà travaillé un peu là-dessus dans ma thèse et aussi dans un colloque que j'avais organisé à Orléans en 2004 où avec, à l'époque, un permanent de la Confédération paysanne des Hautes-Pyrénées, on avait fait un papier de fond là-dessus pour essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi à la fois dans les Pyrénées face à l'ours et dans les Alpes face au loup, on avait des militants de la Confédération paysanne qui étaient très actifs dans l'opposition. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des raisons qui, selon moi, peuvent être compréhensibles et recevables, et il y en a d'autres qui sont vraiment assez, je trouve, critiquables et je trouve, en effet, comme tu le dis, surprenantes. Les raisons qui peuvent expliquer, et bon, qui peuvent être, selon moi, recevables, ou au moins qui sont compréhensibles, c'est que bon, demander à un éleveur d'être favorable au loup, c'est presque, entre guillemets, presque être contre nature. Ensuite, il y a des éléments, c'est que très souvent, les éleveurs de la Confédération paysanne, qui bien souvent ont des petites structures, ont des modèles économiques qui au début sont un petit peu précaires, même s'ils peuvent se stabiliser par la suite, se positionnent sur un secteur qui est l'élevage ovin, qui est un élevage déjà en lui-même qui est extrêmement difficile, hein, sans aide et sans vraiment choix d'une filière précise de valorisation, eh bien ça ne tient pas la route. Et bien souvent, ces personnes qui sont souvent des néos arrivent dans des territoires où il y a des agriculteurs traditionnels qui bien évidemment ne vont pas les laisser s'installer sur les meilleurs territoires et les meilleurs terroirs. Donc très souvent, ces gens qui sont pleins de bonnes intentions et qui ont souvent un fonds écologiste arrivent sur un territoire et au début ils ne le connaissent pas forcément. Et ils n'ont pas forcément tous les éléments, et quand ils essayent de se lancer, eh bien la nature, elle n'est pas forcément toujours généreuse et agréable, eh bien la nature, elle peut être contraignante, et du coup, le loup arrive comme une contrainte qui n'a pas été estimée à sa juste valeur. Et ça, c'est un élément que j'avais souvent remarqué, notamment dans les Alpes du Sud, en Roya. Ensuite, il y a un autre élément qui est plus un facteur, je dirais, lié à des individualités et à des leaders d'opinion qui vont faire tache d'huile, c'est que dès les années 90, dans la Drôme, il y a des éleveurs de la Confédération paysanne qui sont bien qui tiennent la Fédération départementale ovine, qui en général est plutôt proche de la FNSEA, et qui eux très tôt vont avoir un discours anti-loup aligné sur la position de la FNSEA. Et dans toutes les arènes de discussion de la Confédération paysanne, en lien avec la prédation, ils vont monopoliser le débat. Il y a également des éleveurs pyrénéens qui, par rapport à l'ours, vont aussi se positionner, qui sont aussi souvent des néos. Et il faut bien voir que dans les Pyrénées, il y a eu des luttes intestines, des amitiés de 20 ans qui se sont brisées, parce que il y avait des analyses qui étaient complètement contradictoires. Et, si vous voulez, c'est au final toujours la ligne radicale qui l'a emporté. Et alors les militants de la Confédération paysanne au niveau national qui étaient plutôt soit éleveurs dans d'autres secteurs ou qui étaient plutôt agriculteurs, maraîchers, si vous voulez, se sont un petit peu mis en retrait face à la virulence et à la légitimité, entre guillemets, plus ou moins autoproclamée, de ceux qui, venant des Alpes, se disaient ben, nous on est confrontés à cela. Et donc, si vous voulez, le débat a très tôt été verrouillé. Très tôt été verrouillé dans la Confédération paysanne. Et comme là, à l'heure actuelle, en fait, dans les Alpes et les nouvelles zones colonisées par le loup, eh bien, c'est vrai que quand on arrive sur un nouveau terroir et que le loup est là et qu'on cherche à initier une nouvelle dynamique économique, c'est difficile. Et en fait, là, le chargé de mission loup actuel de la Confédération paysanne, je crois que c'est Thomas Vernet, c'est quelqu'un qui a essayé de se lancer dans les Hautes-Alpes, et il correspond aux critères que j'ai évoqués, c'est-à-dire quelqu'un qui a essayé de se lancer avec un petit troupeau, je crois, pour faire de la laine cachemire avec des chèvres, mais dans un secteur difficile et un secteur où le loup était là, ce qui fait que la personne n'a jamais pu véritablement se lancer. Et en effet, la prédation a été difficile, mais c'est-à-dire quand on veut se lancer sur une filière laine, hein, enfin c'est pas un hasard si au XVIIe siècle les Britanniques ont pu devenir leaders européens sur la production laine, parce qu'ils avaient réussi à éradiquer les loups. Et donc, si vous voulez, on a en fait plusieurs personnes qui ont des exploitations qui sont en équilibre économique et écologique précaire avec leur milieu, donc ils se prennent une prédation qu'ils ont du mal à gérer, et du coup ensuite, quand ils arrivent dans les arènes de débat et de discussion de la Confédération paysanne, avec du pathos également, eh bien ça clôt tout le débat. Et ça c'est problématique, parce que même si, en effet, il y a des secteurs où il est apparu que la prédation des loups commence à devenir vraiment assez difficile dans certaines zones, et donc on peut comprendre que bah voilà, les gens veulent réfléchir à ce que bah, parfois les mesures de protection classiques, chaîne de protection, clôture et aide berger, puissent être insuffisantes. Mais cela dit, on n'est pas dans les conditions d'un débat serein, constructif et pluraliste.
Ouais, mais moi, enfin, merci hein, beaucoup pour l'explication, ça correspond directement à ce qu'on sentait, mais en plus on sent en ce moment qu'il y a une véritable offensive de la part de ce paysan. J'ai du mal à les appeler paysans parce que c'est pas du tout la fonction que je me fais, il y a une espèce de modèle agricole là qui est en train de crever, et il y a des spasmes, et là vraiment depuis quelques mois ces gens se mobilisent et sont à l'offensive pour essayer à la fois dans un souci de survivance bien sûr, mais aussi dans un moment où le gouvernement paraît un peu faible, un peu isolé en tous les cas, de tirer tout ce qu'ils peuvent tirer pour continuer à promotionner et à faire vivre leur modèle agricole qui montre bien d'ailleurs ses limites et son échec aujourd'hui, quoi.
Oui, et en plus, je pense qu'on se trompe, enfin, ils se trompent, je pense, de combat, hein. Non pas qu'il ne faille pas essayer de régler et de traiter sérieusement ce problème de l'installation, mais d'ailleurs, quand on regarde l'offensive médiatique, en fait, très souvent, donc on voit Thomas Vernet et puis une autre éleveuse qui est Claire Jourdan. Vous regardez les dernières émissions là sur France Inter, vous regardez les derniers articles dans l'IB, dans Libération, les articles dans la Politis, d'ailleurs, qui m'avait donné, l'envie de faire cette réponse, on retrouve les mêmes cas de figure, les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes, en fait. Et c'est eux qui, d'ailleurs, quand on va sur le site de la Confédération paysanne, qui sont à l'origine d'un document qui s'appelle Loup-élevage, cohabitation impossible. C'est-à-dire, ça, c'est ce que disait déjà la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et les FNSEA, déjà dans les années 90. Oui. Et là, je pense que c'est vraiment problématique à ce niveau-là.
Alors qu'en fait, comme Jean-Michel l'évoquait à l'instant, il y a une question de... On ne parle pas de la situation de l'élevage de la filière bovine, de la dégradation, du fait que, effectivement, la consommation de viande est en baisse, fortement en baisse. Mmh. Ça doit forcément affecter la production ovine et les ventes. Et que par ailleurs, la filière laine, c'est un élément de diversification pour certains éleveurs, mais il est extrêmement faible, il est extrêmement peu soutenu par les fameuses instances qui réclament justement à corps et à cri la disparition. Moi je pense que le durcissement, il va dans par exemple les revendications qui ont été menées ces jours-ci à Paris, là, par quelques 300 éleveurs. Ça va jusqu'à dire de retirer le loup et l'ours de la Convention de Berne. Alors tu pourras peut-être préciser ce que c'est que la Convention de Berne. Mais également, ils réclament le tir dans les zones cœur des parcs nationaux.
Et bien, c'est d'ailleurs ce qui a été autorisé cet été dans la zone cœur du parc national des Écrins. Le préfet de Savoie ou d'Isère, je ne sais plus, avait autorisé cela avec la bénédiction de la ministre de l'écologie Ségolène Royal, hein, qui a dit très clairement qu'elle donnait la priorité au pastoralisme face au prélèvement. Donc que ça vienne du ministre de l'agriculture, on peut le comprendre. Et d'ailleurs, le FOL, là, en ce moment, incite beaucoup les éleveurs à demander des tirs, parce que lui, il est partisan d'une élimination du loup. Et là, c'est vrai qu'on arrive sur un problème qui pose la question de la protection de la biodiversité et de la nature en France, parce qu'en fait, comme tu le sous-entendais, je pense qu'ils se trompent de combat. Non pas, encore une fois, qu'il faille sous-estimer la contrainte réelle que représente le loup, mais en fait, dire que le loup est responsable de la fin du pastoralisme, c'est une erreur, puisqu'au contraire, son retour, c'est plutôt une conséquence de la modification des milieux et du fait qu'il y a un certain nombre de territoires, notamment en lien avec l'intensivité de certaines activités, qui fait que les loups ont retrouvé des conditions, et notamment parce que, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas en mettant plein de moutons dans la montagne qu'on va la rendre vivante et dynamique, et là, Jean-Noël est bien placé pour le savoir, puisque c'est au contraire en mettant de la présence humaine, en mettant des bergers, en mettant des projets avec une... Bah, en gros, ce que prône l'agriculture paysanne, hein, c'est-à-dire une agriculture qui est peuplante, une agriculture qui cherche à créer de la valeur ajoutée tout en s'insérant parfaitement à la fois dans le tissu social, dans le tissu politique et dans le tissu écologique, je pense que c'est par là que je pense qu'on peut s'en tirer, puisque paradoxalement, alors qu'on prête aux protecteurs des grands prédateurs la volonté d'éradiquer la présence humaine dans ces espaces-là, bien au contraire, la solution passe par une réintroduction de l'humain, alors par n'importe comment, mais une réintroduction de l'humain dans ces activités paysannes.
Alors je voulais donner un petit élément sur ce qui se passait en Haute-Marne avec le passage du loup et le cantonnement du loup dans les forêts haut-marnaises. Je discutais avec un copain forestier hier qui bosse sur des secteurs forestiers para. Et lui a estimé que la présence du loup sur les secteurs forestiers, qui s'est retrouvé dans un territoire extrêmement peuplé en cerfs, chevreuils et sangliers, avait pu, en l'espace d'un an ou deux, consommer 2 tonnes de viande, donc de que ce soit sanglier, chevreuil et cerf et biche,
ouais.
Et que dans ce régime alimentaire, il y avait une centaine de kilos de moutons pendant les périodes estivales, les périodes où il y a eu quelques attaques sur les troupeaux. Alors cet individu-là a été tué, tu l'as dit tout à l'heure, dans la Marne, pas loin du camp militaire de Suip. Ça a quand même suscité la mobilisation d'éleveurs qui sont allés à Paris pour réclamer le tir, alors que, et alors là je dis bien, c'est bien une démarche politique, politicienne des syndicats d'éleveurs, alors qu'en fait, avec les éleveurs locaux, il y a eu une opération d'entraide des naturalistes au Marnais, qui ont apporté un soutien à un éleveur qui a 1500 brebis pour faire un enclos pour protéger le troupeau, et apparemment il s'est rien passé jusqu'à présent, quoi.
Bah oui, mais parce qu'en fait là ce qui est pointé aussi, c'est qu'en fait on est dans des milieux où il y a une énorme pression sociale. C'est-à-dire que il se peut qu'il y ait des initiatives et des gens sur le terrain qui concrètement, même s'ils peuvent être opposés au loup à titre individuel, c'est pas le problème, hein. Je veux dire, c'est comme un agriculteur, il va beau être contre la grêle ou être contre les inondations, c'est pas ça qui va l'en protéger, hein, de toute manière. Sur le terrain concrètement, faire avancer les choses, mais il y a une telle, comment dire, une espèce de pression sociale, alors qu'on a affaire à des professions qui, malgré souvent la pseudo-solidarité affichée, qui souvent sont des professions qui sont très très individualistes et solitaires, et en fait, l'affichage de l'opposition aux prédateurs, ça fait une espèce d'esprit de corps qui permet à ces gens-là de se compter, puisque dans toutes les autres problématiques, quand il s'agit de se mobiliser contre la politique agricole commune ou contre des mesures de puissage ou autres, ben c'est assez difficile d'identifier très clairement la menace. Alors que là, face aux prédateurs, on a un ennemi entre guillemets ancestral qui draine à la fois une charge symbolique, historique, culturelle, médiatique.
Oui, cristallise. C'est un symbole qui cristallise un peu toutes les haines ataviques.
Exactement. Donc, et ceci empêche de se poser et d'avoir une gestion constructive, hein, constructive de la chose. Il suffit de voir aussi le positionnement de beaucoup d'élus, la plupart des élus locaux qui souvent n'y connaissent pas grand-chose et souvent découvrent leur monde agricole concrètement quand il y a la prédation, eh bien tout de suite s'empressent d'afficher un soutien indéfectible à toute position qui serait la plus radicale possible. Et dans le milieu de l'élevage et de l'agriculture, c'est exactement comme ça. Et hélas, c'est également comme ça dans la Confédération paysanne.
Mais justement, bon, on n'est pas sur France Culture, donc on va pas entrer dans des analyses intellectuelles. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de quasi-anthropologique dans cette question du loup, justement, où on a un homme qui est confronté à un écosystème et qui n'accepte pas d'être en concurrence de prédation, qui n'accepte pas que, justement, d'avoir la nécessaire humilité face à la nature, c'est-à-dire de se sentir être un membre de cet écosystème et pas un dominant dans cet écosystème.
Ouais. Il y a ça. Moi, je pense qu'il y a ça. Là, c'était pour la quart d'heure France Cul, chez Radio Prime. Mais je pense qu'il y a ça. Mais il y a aussi le fait il y a cette charge culturelle. Mais il y a aussi, comment dire, l'impression que derrière le prédateur, il y a un autre projet, et il y a d'autres personnes qui sont derrière. Alors, ça va être, on va dire, l'écologiste qui ne connaît rien à rien, ça va être l'écologiste qui ne connaît pas le terrain, ça va être le citadin ou l'État central ou Bruxelles qui veut imposer cela. Donc, vous voyez, c'est comme si le loup est une espèce de médiateur, et en fait, en s'opposant au loup et à l'ours, en fait, on va chercher à s'opposer à autre chose. Alors ça va être, comme je l'ai dit, un État central, et donc ce qui est assez assez cocasse, c'est que les militants de la Confédération paysanne qui sont anti-prédateurs vont dire que, vont faire le raccourci en disant que le loup ce n'est pas une vraie cause environnementale et au contraire derrière le loup on va trouver l'agriculture industrielle, on va trouver la mondialisation, omettant complètement que une des raisons pour lesquelles l'élevage se trouve mal en France, c'est notamment parce que le système d'aide défavorise l'élevage ovin, et qu'au contraire, l'Union européenne elle a testé la libéralisation en favorisant l'importation massive d'agneaux britanniques et de Nouvelle-Zélande, qui ont contribué à faire baisser les coûts à tel point que, à l'heure actuelle, les prix de l'agneau, qui sont d'ailleurs maintenant de plus en plus vendus en grande surface et non pas chez les taillants, n'a quasiment pas évolué en 30 ans. Et ça, c'est un réel problème.
Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer pourquoi actuellement on reparle des loups? Il y en a, je crois, 320 hein, en France, une estimation, hein, je crois. Et est-ce que comment tu peux expliquer ça, comment ce renouveau?
Alors en fait, oui, là, les effectifs sont autour de 300 à 350, bah, apparemment les nouvelles estimations, ça va être 350 individus, hein, pas meute, 350 individus. En fait, ce dossier des prédateurs, c'est comme si la société était atteinte de paludisme. C'est-à-dire que vous savez, le paludisme, vous connaissez cette maladie, c'est-à-dire que parfois vous avez des poussées de fièvre, et parfois ça se calme, ça se tasse. Et alors ces poussées de fièvre, elles peuvent avoir des origines complètement différentes. Ça peut être par exemple des raisons objectives, tout d'un coup des attaques qui vont être particulièrement importantes dans un secteur, sur l'exploitation par exemple, tout un troupeau va se renverser dans un ravin. C'est ce qui s'est passé en 2002, il y avait eu je crois 300 ou 400 brebis dans les Alpes-Maritimes, et c'est à ce moment-là, donc à la suite de ce dérochement, que le député Estrosi, qui avait fait sa campagne contre l'insécurité, contre les immigrés et contre les loups, eh bien, avait diligenté une grande enquête parlementaire qui avait débouché sur les nouveaux plans loups. Donc il peut y avoir ce type d'événement-là. Et puis il peut y avoir des contextes particuliers. Et là, je pense qu'il y a très clairement depuis cet été une offensive, notamment diligentée par des activistes de la Confédération paysanne, qui est bien sûr relayée par des forces endormantes, hein, qui sont à la fois dans les milieux de la chasse, mais aussi dans les milieux syndicaux agricoles plus traditionnels. Et comme à l'heure actuelle, en fait, on est dans un contexte où il est vrai que la population de loups ne cesse d'augmenter, et son expansion territoriale est tout à fait réelle, dans certains secteurs, la prédation est particulièrement forte, parce qu'en fait, on parle de la prédation, mais il faut bien voir que près de la moitié de toutes les prédations en fait se concentrent sur une zone assez réduite. Hein. Je crois que à 3 ou 4% des exploitations concentrent près de la moitié de toute la prédation hein, au niveau national, avec une surreprésentation des Alpes-Maritimes pour différentes raisons, et du coup forcément, là on va trouver des gens particulièrement énervés. Et les médias aiment bien tendre les micros aux gens énervés, surtout en ce moment, et dans les mouvements sociaux, bah, assez souvent, ce sont les plus radicaux avec les discours les plus simplistes qu'on peut être amené à suivre massivement, et les médias raffolent de ça, et ça fait boule de neige.
Farid, on va peut-être faire une petite pause et on se retrouve après si tu as encore un peu de temps à nous consacrer.
Oui, d'accord. Oui.
Mais roulage des doigts dégueulés sur les ondes, cette voix venue tout droit du territoire des ombres, cette voix immonde qui prend du poids et des galons, qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons. Cette voix en multiple gorge qui se décharge, habitée d'une haine si virulente qu'elle en éparse. Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire, cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question car des silences, cette voix revient comme un cauchemar, diabolisé nos différences. Et qui s'affuge de la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre et d'humeur assassine, elle s'évertue à plonger la tête qui migrait dans la bassine. Ses gestes se racinent, traction contre mélanine, reproche l'odeur de sa cuisine, la largeur de ses narines. Le traite comme un danger, rouge son nom dans la famille. Ses théories sont consanguines, parle de flingues, de carabines. Des soins de France en blanc ou en bleu marine, alors le port et sa portée de Corrèze s'en laissent les papilles. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, état d'urgence décrété. Donc pas question de garder le silence, cette fois revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, c'est la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette fois c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal, mon identité n'est pas jamais nationale. Cette voix n'a pas de couleur, comme la connerie ou l'ignorance, elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses. C'est l'éloquence pour le monter les uns contre les autres, elle se rabâche en continu chez l'étranger, et elle est nôtre. Mon identité, elle est plurielle, elle est changeante, et heureusement, elle n'hésite pas à prendre la tangente. Elle s'inspire de toute culture, s'inspire de toute étoile, elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal. Mais cette voix veut me tirer vers le fond, c'est cette fois encore une fois que je combats sa rémission. Pressé contre son ordre, contre sa morale, mon identité n'est pas jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, c'est la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix, c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Et si ça fait, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix, c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal, mon identité n'est pas jamais nationale.
T'es toujours là?
Oui, toujours, oui.
Oui, on voulait, donc, je sais pas comment il faut conclure peut-être, est-ce que, quelle perspective tu entrevois dans les prochains mois, au travers de ce qui se passe dans le mouvement associatif, mais aussi, oui, dans les, dans, je pense à Pastoralou, je pense à...
J'en ai parlé là justement avec des dirigeants associatifs. Là pour le moment, il est très clair qu'on est dans une configuration où le milieu associatif, pour diverses raisons, hein, notamment certaines que nous avons évoquées, est complètement inaudible. C'est pas faute de communiquer, hein, c'est pas faute de vouloir donner son point de vue, c'est juste qu'il est inaudible, on leur tend pas le micro. Et donc, en ce moment, les bons clients sont plutôt parmi les opposants, notamment dans les syndicats agricoles et notamment dans la Confédération Paysanne. Donc j'ai l'impression que c'est assez séduisant pour beaucoup de médias de voir la Confédération Paysanne sur ces questions un petit peu prendre à contre-pied sa propre philosophie. Donc ça forcément ça marche bien. Et moi, à court terme, je suis assez partagé puisque il est vrai qu'il y a la prédation du loup qui est une réalité. Et si on ne prend pas les choses vraiment très sérieusement, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, ça peut se dégrader. Il y a des initiatives qui sont formidables. Là, j'évoquerai sur votre antenne notamment celle d'un spécialiste suisse qui est Jean-Marc Landry, qui est un spécialiste à la fois du loup, du pastoralisme et des chiens, qui travaille sur une technique révolutionnaire de protection du loup avec de protection pardon des brebis avec des colliers répulsifs. C'est extrêmement ingénieux et à mon avis c'est tout à fait crédible son dispositif. Hein. Pour ceux qui connaissent la buvette des alpages, hein, vous tapez Jean-Marc Landry collier répulsif, vous verrez son projet. Lui, il lui faut que quelques milliers d'euros pour concrétiser son projet, il a toutes les peines du monde à les trouver. Donc moi je pense que c'est justement par le travail sur le terrain, notamment par des initiatives, qu'on peut régler ce problème technique de la prédation. Ensuite, il y a les aspects plus politiques, et cela, là j'avoue que je suis à court terme, comme je dis, assez pessimiste, mais bon, à moyen et long terme, tant qu'on n'a pas décrété le retour du poison et une éradication massive du loup, pour le moment, le loup, en revanche, il continue sa progression. Hein, il a une progression annuelle qui est de l'ordre de 20%. Et malgré le braconnage, apparemment, et là, les tirs officiels, ça semble pas fléchir. Alors localement, oui, hein, ça peut faire des gros dégâts. Mais l'expansion géographique du loup, pour le moment, elle semble assez irrésistible. Donc voilà, cela dit, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse le loup s'étendre sans régler concrètement sur le terrain les problèmes, ou bien on le laisse s'étendre en faisant les pompiers pyromanes, c'est-à-dire en faisant de la démagogie, en flinguant à un moment tout ce qui bouge, y compris est-ce qu'on va aller vers le retour du poison, là ce serait une catastrophe pour toute la faune. Je pense que là, il faudrait que, je dirais, on ait une gestion, on va dire, constructive et qui à la fois réussisse à concilier les enjeux de l'environnement et puis et les enjeux sociaux et économiques.
Et alors justement, parce que nous, notre idée dans cette émission, outre le plaisir de t'entendre nous parler de ces choses-là, c'est que cette question du loup, à travers ce qu'on a évoqué là depuis une heure, elle montre bien son caractère politique et social. C'est vraiment un révélateur quoi de ce que nous on considère comme écologie sociale et sur le fait que toute cette écologie elle a été complètement confisquée par des gens, qu'elle a été vidée de son contenu comme tu disais politique et social, et que quand on se retrouve face à une interrogation, à une problématique comme ça, ben ça part dans tous les sens forcément. Prendre une heure pour expliquer le retour de ce prédateur, le pastoralisme, ça peut pas fonctionner dans les médias habituels. C'est beaucoup plus mieux de faire de l'émotion avec une émotion qui est certainement là de la part des éleveurs. On n'est pas en train de nier ça. Quand même rappeler que, étant donné le statut spécifique du loup, chaque éleveur est indemnisé. Hein. Il n'y a pas de perte de fric, hein, ça va. Hein. Après, quand on nous parle du traumatisme, je veux bien l'entendre. Visiblement, il y a certaines choses qui traumatisent plus que d'autres. Mais bon, on va pas être cynique non plus. Mais donc, je crois que c'est vraiment à la fois, comme tu disais, admettre et assumer la question politique et sociale que représente la question de la prédation, et puis revenir à une écologie qui serait entre les acteurs premiers, et pas par des grandes conférences, et pas par le haut, comme il peut y avoir aujourd'hui avec des Grenelles, des GIEC, des machins, etc. L'écologie, c'est d'abord au quotidien, et c'est d'abord entre les acteurs de la nature, donc entre l'homme et son milieu, quoi. Et c'est pas autrement que ça peut se passer, quoi.
Oui, tout à fait. Alors après aussi, c'est vrai que des fois la confrontation des discours de niveaux différents, ça peut ne pas coller. Par exemple, quand nous là, on essaie de discuter pour essayer de prendre du recul et essayer de peser le pour et le contre, c'est vrai qu'il y a une vraie cohérence. Mais quand on a face à soi quelqu'un qui est dans le pathos, qui va vous sortir les photos de brebis égorgées, etc., c'est vrai que là, il y a une espèce d'incompatibilité où il faut en effet à un moment, bon ben voilà, trouver le moment, se poser, hein, parce que c'est vrai que quand on a affaire à des professions qui, sur le plan économique et social, s'en prennent déjà plein la gueule à plein d'autres égards, c'est facile de titiller sur la méchante bête et qui va cristalliser, comme on le disait tout à l'heure, tous les problèmes. En effet, il faut vraiment positionner ça sur le plan écologique, social et politique, et aussi à froid, enfin, le plus à froid possible sur le terrain, pour faire progresser la chose, quoi.
Ouais, le loup comme bouc émissaire du capital, quoi, en fait.
Voilà, si on veut. Voilà, exactement.
Et ça va pour vous quand même, parce que on sait de quoi ces gens-là sont capables, notamment dans le quart sud de la France. C'est pas trop difficile de porter une parole qui soit Si, ta réaction est une réponse, parce qu'on sait de quoi ces gens-là sont capables quand ils sont acculés, hein.
Ah oui, mais j'ai pas entendu quoi, des positions racistes, tu veux dire?
Ah non, des positions à contre-courant, pardon.
Ah oui, non, parce que, en fait, bon, moi, très souvent, quand j'ai fait mes enquêtes, etc., moi, j'écoute les gens et je discute avec eux, et souvent, quand on est dans le dialogue, etc., moi, je présente des choses, et je prétends pas non plus détenir la vérité. Et puis, bah, suivant le contexte, parfois, on sait qu'il y a des choses plus ou moins à ne pas dire, mais sinon, moi ça m'est déjà arrivé. Alors dans les Pyrénées, il y avait un festival qui s'appelait le Festival Résistance, qui était un festival justement de cinéma alternatif, où il y avait un débat qui était organisé, et il y avait les militants anti-ours qui sont venus. Moi j'avais fait un peu comme ce qu'on a fait là, hein, c'est-à-dire j'ai essayé de recadrer, etc. Et je me suis fait traiter d'intellectuel. Et alors comme si c'était une insulte, je leur ai dit que si ma mère avait été là, elle aurait été très contente, hein, de leur entendre dire ça. Et puis un des éleveurs, qui d'ailleurs avait fait des études très poussées d'ingénieur, hein, et qui se faisait passer pour un inculte, m'avait dit que de toute manière je ne pouvais pas parler de l'élevage parce que j'étais pas moi-même éleveur. Alors je lui ai répondu, bah du coup je peux pas parler de l'ours parce que je suis pas moi-même un ours alors.
Ouais, oui, c'est en général le dernier refuge que,
voilà.
des discours, quoi.
Bon, mais on va en rester là pour aujourd'hui,
ouais,
Farid, à moins que tu aies un mot de conclusion.
Non. Je vous remercie de m'avoir invité. Ben. À mon prochain passage à Reims, et j'espère pouvoir venir avec vous en studio.
Creuser encore et encore cette question et essayer de faire appel à notre intelligence, en tous les cas, s'il en reste.
Oui, oui, et même élargir à l'environnement, parce que moi je suis un adepte d'un géographe que vous connaissez peut-être et que vos éditeurs connaissent certainement, qui était le géographe anarchiste Élisée Reclus. Et bon, moi, c'est un de mes maîtres, parce que 100 ans avant tout le monde, il avait tout compris. Et en fait, lui, il ne concevait la problématique, déjà avant tout le monde, la problématique environnementale, que dans ses interactions avec les sociétés, et que justement c'est en lien avec les dérives du système capitaliste qui fait que on a autant de dérives écologiques. Il ne s'agit pas de dissocier les deux, bien au contraire.
Et ben voilà, on termine avec un conseil de lecture, histoire d'une rivière, Élisée Reclus, histoire d'une montagne, de bouquins magnifiques qui doivent être à la découverte, je crois. Et vraiment, pour savoir ce qu'est justement l'écologie sociale et comment on peut être communiste, anarchiste.
Et je vous recommande aussi les ouvrages de Philippe Pelletier, ouais, hein, sur Élisée Reclus, Kropotkine et Metchnikov, qui est sorti, d'ailleurs, je crois que c'était les éditions libertaires, je crois. Et je vous recommande aussi ça, Philippe Pelletier, retenez bien, excellent géographe également.
Ok, merci
beaucoup Farid, à bientôt. Oui. Alors.
De rien, au revoir.
Allez, on va peut-être se quitter. Ah non, il nous reste quelques instants, on va peut-être écouter la deuxième chanson du supergroupe. Non, qu'est-ce qu'il nous dit notre intermittent? Il reste 30 secondes. Eh ben alors on va peut-être donner les références de ce dont on a parlé. Donc l'article de Farid, il était dans Politis, le numéro 1329 du 27 au 3 décembre. Et puis aussi, pour ceux qui ont un peu plus de fric et qui peuvent le trouver, il y a un beau numéro d'Alpes Loisirs d'automne 2014. Décidément, c'est un peu le commerce, là, la fin de l'émission. Ça coûte quand même 6 euros, mais il y a un gros dossier sur le loup. Et justement, ça permet de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, comme on a essayé de le faire aujourd'hui. Et puis, sans prétention, mais avec intelligence, d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'avoir des arguments rationnels.
Les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les manquements, seulement en soumissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatale, pas du tout, on non la considère pas fatale. La petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire, Il charme très fort, mais il ne peut pas s'effacer. Jean Dupartier. Samedi, les filles, les hommes et les femmes qui sont mobilisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence.
J'attends les ordres.
Allez, vous écoutiez les Régors, une part anarchiste communiste, chaque semaine sur les Polygraïques, Montpellier et Canal Sud à Toulouse, où elle est retransmise. Et sur Reims, c'est bien où elle est faite.